Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Bonsoir Théo. Alors Théo, il a l'air d'un schtroumpf aujourd'hui, je trouve qu'il c'est trop mignon, avec sa belle petite capuche. C'est dommage qu'on n'ait pas des caméras, comme ça on aurait bien vu.
Il y en a, mais elles ne sont pas branchées.
Oui, c'est ça. Alors moi, je suis ravie de vous retrouver encore une fois cette semaine, mais encore plus parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est le printemps.
Ah oui, c'est vrai.
Il est là. Alors je suis ravie donc pour des nouvelles, pour vous retrouver, pour vous donner des nouvelles. Je vais y arriver ce soir. Oulalalala. Vous donner des nouvelles recettes aussi gourmandes, faciles à réaliser. Alors, on va voir ensemble ce soir le menu. J'ai prévu de vous expliquer de la gaufre au comté et sa sauce yaourt. Quelque chose d'un peu léger, mais un peu copieux quand même. Facile toujours à préparer. Donc pour ça, vous aurez besoin de 250 g de farine, 5 g de levure chimique, 35 centilitres de lait, 2 œufs, 40 g de beurre fondu, 40 g de comté râpé. Vous pouvez le faire avec du gruyère si vous avez, hein.
D'accord.
Mais le comté, ça a plus de goût. 4 brins de cerfeuil, 5 tranches de saumon fumé, de truite fumée, ce qui n'est pas du tout la même chose. 100 g de yaourt, donc ça fait à peu près un yaourt, hein. Une pincée de piment d'Espelette, on va mettre un petit peu de piment dans cette préparation, 2 feuilles de sauge, du poivre et du sel. Côté ustensile, on va utiliser 2 saladiers, un fouet batteur, un couteau, un gaufrier bien évidemment, puisque c'est des gaufres que l'on fait, une louche et une marise. Ensuite, on ira du côté du capitaine Haddock, puisque nous allons... Quand j'ai fait la préparation, je me suis dit, tiens, ça me fait penser au capitaine Haddock.
Exactement.
Haddock, mille sabords. Donc, on va faire du Haddock poché au lait. Donc, pour ça, il vous faudra 600 g de filet de Haddock, 1 litre de lait, 6 endives, 2 brins de coriandre, 40 g de beurre, un jus d'orange, un demi-jus de citron et du zeste. Donc, on va jouer avec les agrumes. Et 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Donc, pour cela, pour les ustensiles, il vous faudra un presse-agrumes, une grande casserole, un couvercle, une poêle, un fouet, une cuillère en bois et une râpe. Et puis, on finira en beauté avec une tarte façon crème brûlée. Je vois déjà la salive qui monte chez Nathalie. La tarte façon crème brûlée. Donc, pour ça, il vous faudra 100 g de beurre mou, 190 g de sucre, un œuf, 15 centilitres de lait, 5 jaunes d'œufs. Vous garderez bien évidemment les 5 meringues. Je vous expliquerai pourquoi.
Les blancs, pour les meringues.
Pour les meringues. 200 g de farine, 20 g de cacao, 33 centilitres de crème liquide entière, donc c'est un berlingot, hein. Un bâtonnet de cannelle, 2 gousses de cardamone. On verra ce que c'est exactement. Et puis, je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. 2 rondelles de gingembre frais. Et côté ustensiles, il vous faudra 2 saladiers, un fouet, une cuillère en bois, une casserole, un rouleau, 2 moules à tarte, puisqu'on va cuire à blanc, ce qu'on appelle à blanc. Un batteur fouet. Et papier cuisson du film et un chinois. Voilà pour notre menu de ce soir, qui est un peu qui sort un peu de l'ordinaire, moi je trouve, qui est un peu sympa.
Ouais.
Voilà. Ça change un petit peu de la cuisine qu'on a habituellement. Alors Nathalie, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de... Puisqu'on va travailler la truite, enfin on va travailler, hein, on va utiliser la truite fumée. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, que tu nous parles de la truite fumée.
Alors le terme truite, est un nom vernaculaire ambigu puisqu'il désigne plusieurs espèces de poissons de la famille des salmonidés, largement recherchés par l'homme pour l'intérêt culinaire et nutritionnel. Au sein de cette famille, la différence entre les truites et les saumons ne repose pas sur des critères scientifiques, mais sur une distinction populaire. Alors, les deux espèces de truites les plus consommées par l'homme, la truite fario et la truite arc-en-ciel, appartiennent respectivement au même genre, la salmo et la oncornicus, que le saumon atlantique et les saumons du Pacifique. Comme ces derniers, les truites peuvent faire l'intégralité de leur cycle de vie en eau douce ou alors migrer vers les océans. On parlera dans ce cas de truites de mer. Les truites vivent dans des eaux claires et vivent principalement en Amérique du Nord, en Europe, dans le nord de l'Asie et dans les rivières de l'Atlas au Maroc. Elles ont été également introduites en Australie et en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. Selon les espèces, la durée de vie peut varier de 7 ans à plusieurs dizaines d'années. Une truite de 80 cm peut dépasser les 5 kg. Et certains spécimens vivant en lac dépassent le mètre et 15 kg. Les truites n'ont pas d'épines dans les nageoires et elles possèdent toute une nageoire adipeuse à l'arrière, proche de la queue, qui est une caractéristique commune à tous les salmonidés. Alors, bien que la plupart des truites vivent exclusivement en eau douce, donc certaines espèces, la Oncorhynchus, Mikis et Salmotruta ou Fario notamment, présentent des spécimens qui passent leur vie adulte dans l'océan et remontent les rivières pour se reproduire. On parle alors donc de la truite de mer, la truite dorée. Les truites, elles sont carnivores, elles se nourrissent principalement de vers et d'insectes, mais les espèces et les spécimens les plus imposants chassent également d'autres poissons, particulièrement les vairons. Filet de truite, ça veut dire coupé en pavé de truite. Les truites arc-en-ciel d'élevage, dont la chair est couleur saumon, du fait de leur alimentation, sont parfois appelées truites saumonées.
Et c'est de tout à fait ça dont on va parler. Merci Nat. C'est la truite saumonée. Elle ressemble étrangement
au saumon fumé.
Le goût va le différencier. On a quelque chose de un petit peu plus fin. Après, ça dépend de la truite et comment elle a été fumée. Mais la façon, quand on fait de la truite saumonée gravlax, c'est le même principe, sauf que le goût va être différent du saumon. La truite est peut-être moins grasse.
C'est ce que j'allais dire, c'est moins gras.
Voilà. Et puis, on a parlé des épines.
Ouais.
La truite, elle n'a pas d'épines, elle a juste une arête centrale et c'est vraiment pratique quand on fait du saumon gravlax, la truite gravlax, contrairement au saumon où on doit avec une pince à épiler. Mais ça sera un autre sujet d'un autre soir. Écoutez, avant de commencer l'explication de notre gaufre au comté et sa sauce au yaourt, moi je vous propose une première pause et on se retrouve de suite.
Salut, c'est Pierre Demar, vous écoutez Infini Radio.
Encore plus que la veille, de la vie est telle que dans tes rêves elle vous fait.
Alors nous revoici pour notre fameuse recette de gaufres au comté et sa sauce au yaourt. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple encore une fois. Alors je vous rappelle un peu les ingrédients. On aura besoin de 250 g de farine, 5 g de levure chimique, 35 centilitres de lait, 2 œufs, 40 g de beurre fondu, 40 g de comté râpé, 4 brins de cerfeuil, 5 tranches, décidément je veux que la truite ça soit branchée, 5 tranches de truite saumonée, on va avoir saumonée et fumée, 100 g de yaourt, une pincée de piment d'Espelette, 2 feuilles de sauge, du poivre et du sel. Et puis pour les ustensiles, on aura besoin de 2 saladiers, d'un fouet, d'un batteur, d'un couteau et d'un gaufrier, d'une louche et d'une marise. Il faudra que vous comptiez à peu près 15 minutes de préparation. Par contre, il y aura 2 heures de repos pour la pâte à gaufres, pour qu'elle soit tranquillement reposée. Elle va faire une petite sieste de 2 heures. Et puis, on aura 15 minutes de cuisson, c'est pour faire toutes les gaufres. Alors, on va dans un premier temps prendre un saladier, et puis on va prendre le batteur et battre les œufs avec le lait. Ensuite, on va, une fois que c'est bien mélangé, bien battu, même si ça mousse un peu, c'est pas bien grave, vous allez ajouter la farine, la levure, et vous allez continuer toujours à battre avec le batteur. Donc il faudra peut-être passer à une puissance un peu plus forte, puisqu'on a rajouté de la farine qui va être un petit peu un peu plus épais. Mais attention quand même aux éclaboussures, hein, quand vous mettez la farine, voilà, vous y allez très
doucement,
gentiment,
au début,
doucement.
Ouais.
Oui. Maintenant, à l'aide de la marise, donc on laisse tomber le batteur, l'aide de la marise, on va mélanger le beurre fondu, le gruyère, enfin le comté râpé, le cerfeuil que vous aurez émincé, ciselé, hein, en petits morceaux, hein, comme un peu le persil, hein, parce que c'est ça. Hein. Préalablement, donc, vous poivrez, vous salez suivant votre goût. Alors, je dis toujours, hein, l'assaisonnement, c'est 2 pincées de sel pour une pincée de poivre. Donc, s'il faut vous en rajouter, vous en rajoutez un petit peu, ça dépend de votre goût. Vous mélangez bien. On va rajouter évidemment du piment d'Espelette un petit peu, et puis vous allez couvrir d'un film et réserver 2 heures au frigo. Voilà. Donc le piment d'Espelette, vous pouvez en mettre dans la gaufre, un petit peu, mais vraiment une pincée. Mais on va aussi en mettre dans la sauce qu'on va préparer, la sauce au yaourt. Comme ça, on aura les deux. Il faut vraiment y aller avec une petite pincée, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément. Bien que le piment d'Espelette, on l'avait vu dans une autre émission, c'est pas fort en goût. Hein, c'est pas comme le piment de Cayenne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le goût subtil, c'est un goût subtil. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Maintenant, on va préparer donc la sauce. Alors pour ça, vous prenez un saladier ou un bol suffit pour cette préparation. Dedans, vous mettez le yaourt, vous mettez donc le piment, donc toujours une pincée de piment d'Espelette. Si vous aimez bien relever, vous en rajoutez un petit peu. Vous mettez la sauge qui sera ciselée bien évidemment auparavant. Et voilà, votre sauce, elle est prête et elle est réservée au frais. C'est pas compliqué de faire une sauce au yaourt. Prenez plutôt un yaourt, ou vous prenez un brassé, ce qui peut être sympa, hein, qui fait un aspect velouté. Vous pouvez aussi prendre un yaourt, un faisselle que vous mélangez avec de la crème fraîche. Ça, vous pouvez le faire aussi, mais avec une cuillère de crème fraîche, de façon à lier le yaourt. Ou peu importe le yaourt, il faut qu'il soit bon au goût. S'il est bon au goût, il sera bon à l'arrivée. S'il n'est pas terrible au départ, c'est pas parce que vous mettrez des bons ingrédients dedans qu'il sera meilleur à l'arrivée. Vous pouvez aussi rajouter des herbes de Provence, des choses comme ça, mais comme on a la sauge qui est assez forte en goût, on met pas davantage. Bien, au bout de 2 heures de repos, on enlève le film, bien évidemment, et puis on va faire chauffer notre gaufrier. Donc, vous attendez, alors moi j'ai un gaufrier où la lumière, elle s'allume quand c'est chaud. Il n'y a pas besoin de huiler ou de beurrer. Si ça accroche un peu, oui, faites-le, mais franchement, c'est pas utile, hein, parce que dans la pâte, il y a quand même du beurre fondu, et normalement, ça suffit. Et puis, comme c'est un peu tefal, normalement, ça devrait pas accrocher. Si ça accroche, regardez bien, c'est que vos plaques, elles sont abîmées. Je le dis parce que moi, ça m'est arrivé, du coup, j'ai changé mes plaques. Voilà, tout simplement. C'est pas difficile. Voilà, donc vous allez verser donc une première louche dans chaque empreinte. Alors, tout dépend de ce que vous avez comme gaufrier. En général, on a 2 empreintes de chaque côté.
Oui.
Voilà, il y en a maintenant qui ont fait en forme de cœur, des choses comme ça. Après, c'est à vous de voir. Oui. Mais ça sera une louche dans chaque empreinte. Et puis, vous allez cuire et faire dorer gentiment vos gaufres. Alors, en général, ça dure 4-5 minutes. Tout dépend de la puissance de votre gaufrier. Voilà. Et puis, vous allez laisser tiédir. La sauce yaourt, on va tartiner notre gaufre, mais pas sur du chaud, sur du tiède. Donc, l'idée, c'est de faire toutes vos gaufres, de les mettre dans une assiette avec du papier aluminium. Et à la limite, vous faites le système des crêpes, comme j'avais expliqué ça a un an, je crois. Mettez une casserole d'eau bouillante au-dessus de votre assiette. Comme ça reste au chaud.
Ouais.
Et vous recouvrez de papier aluminium. Et comme ça, les gens peuvent se servir avec la sauce d'un côté, la sauce au yaourt et puis les tranches de saumon. Mais si vous voulez les présenter, tout simplement, tiède, vous tartinez de sauce au yaourt. Vous mettez par-dessus la tranche de truite saumonée. Et puis, vous déguster et vous vous régaler. C'est quelque chose de très très sympa. Vous pouvez servir ça avec à l'apéritif. Vous faites des mini gaufrettes, vous les coupez, hein, et puis à l'apéritif ça peut être
ça remplace
être sympa.
Le blini habituel et
c'est
conventionnel.
C'est ça, tout à fait. Alors on a parlé et puis dans d'autres recettes que je suis en train de préparer pour les prochaines fois, on a parlé de la sauge dont on ne connaît pas forcément les choses. Et Nathalie, tu as préparé, je crois, quelque chose sur la sauge.
Oui. Alors, les sauges forment le genre Salvia. Ce sont des plantes de la famille des Lamiacées qui comprend plus de 900 espèces annuelles, biannuelles, vivaces ou arbustive. Une dizaine de sauges sont indigènes en Europe. Par exemple, la sauge des prés. Les sauges étaient considérées au Moyen-Âge comme une panacée, certaines espèces possédant de nombreuses vertus médicinales. Deux d'entre elles étaient particulièrement utilisées pour leur sommité fleurie et leurs feuilles, la sauge sclarée, qui est la salvia sclarea, sclarea même, et la sauge officinale, qui est la salvia officinalis, avec lesquelles on faisait des infusions et des décoctions. Certaines espèces de sauge, en particulier la salvia divinorum, ou la sauge divinatoire, connue localement sous des noms divers comme Horace de la Pastora ou Herba de Maria, possèdent des propriétés hallucinogènes et sont encore employées comme dans les rites chamaniques de purification contre les nuisances occultes dans certaines tribus amérindiennes ou comme psychotropes. La sauge est aussi employée comme herbe aromatique dans des préparations comme l'égabolida, par exemple. Son goût est puissant, légèrement amer et camphré. Elle se marie bien avec le porc, comme harista ou carré de porc rôti, avec le veau, pour le saltimbocca, et les plats à base de volaille, comme le poulet, la dinde, le canard, mais aussi avec des pommes de terre ou autres féculents. Elle s'utilise aussi en naturopathie pour ses propriétés médicinales, notamment sur le système hormonal féminin. Elle apaiserait les maux liés au syndrome prémenstruel et permettrait un sevrage sans douleur pour les mamans allaitantes en apaisant les montées de lait. Et certaines espèces sont purement ornementales. Elle est citée au Moyen-Âge dans le capitulaire de Vilis qui fut à l'honneur jusqu'au XVIIe siècle.
Merci Nathalie. Donc tu vois la sauge, hein, donc c'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup. On parlait de pommes de terre au four tout à l'heure, ou pas de, on parlait de pommes de terre. Dans effectivement, la sauce que je viens de vous donner, vous pouvez
des pommes de terre un peu chaudes, un peu tièdes, c'est très bon,
c'est super bon ça. Plutôt que de mettre de la crème fraîche,
oui,
on met un yaourt. Voilà, c'est comme ça.
C'est plus light.
Voilà. Ben écoute, après cette page culturelle, on se retrouve pour le plat tout de suite après cette pause. À tout de suite.
Car du nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace. Mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Je l'ai fait.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la seconde partie de notre émission et on va donc avant de commencer déjà oui. Nathalie, avant de commencer notre recette, est-ce que tu pourrais éclairer notre lanterne, justement ça tombe bien puisqu'on parle de notre capitaine ad hoc qui est un poisson. Vas-y, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as trouvé sur ce capitaine ad hoc ?
Alors le ad hoc, c'est une préparation salée et fumée d'aigle fin. Ce poisson, donc l'aigle fin, est pêché essentiellement sur les côtes de Norvège et d'Islande. Le haddock est très consommé en Europe du Nord, au Royaume-Uni, dans les fish and chips, et aussi aux États-Unis. L'aigle fin, préparé en haddock, est salé, fumé et teint au roux. C'est un colorant végétal utilisé également pour colorer la mimolette ou le cheddar. Le haddock bien frais est a une chair blanche et claire. La fraîcheur du filet d'aigle fin se détermine à sa tenue et à sa fermeté. Les filets doivent être translucides, pluvieux, ils prennent un aspect crayeux. Le haddock prend moins bien la saumure que la morue et se conserve surtout par séchage et fumage. Le haddock fumé prend une teinte blanc cassé et est le plus souvent teint au roucou. Les filets de haddock généralement vendus par les poissonniers sont pourvus d'une peau épaisse et gélatineuse qui doit être absolument retirée avant présentation à table. Sur demande, le poissonnier peut retirer cette peau, dont le poids sera néanmoins inclus dans le poids net de l'achat, ils sont pas fous, hein. Les filets de haddock peuvent se consommer crus, rapidement poché ou bien cuisiné comme la morue, à l'exception de l'étape de dessalage qui n'est pas absolument nécessaire.
Voilà, donc c'est bien la différence, hein. Donc on est bien d'accord que le haddock c'est du filet de d'aigle fin avant d'être fumé et salé et coloré avec le rocco, ce qui lui donne un peu cette couleur orangée. Mm-hmm. Vous pouvez le trouver sur les étalages donc en appellation aigle fin, filet d'aigle fin. Et dans ces cas-là, comme tu disais, c'est vraiment un poisson qui est très très fin au goût. Après, quand il est plus travaillé et on a plus en ad hoc, il est plus fort en goût. Normal, c'est le fumé. Voilà, donc je voulais juste faire cette parenthèse-là. Donc, ce n'est pas de la morue ou de la fausse morue, on est bien d'accord.
Oui, oui.
Hein. Donc, on voit ensemble le ad hoc qui sera poché au lait. Alors, les ingrédients, on aura besoin de 600 g de filet de haddock, on aura besoin d'un litre de lait, de 6 endives, puisqu'on va faire des endives braisées, 2 brins de coriandre, 40 g de beurre, un jus d'orange, un demi-jus de citron et son zeste, deux cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre. On va avoir besoin d'un presse-agrumes, bien évidemment, d'une grande casserole, d'un couvercle, d'une poêle, d'un fouet et d'une cuillère en bois et d'une râpe. Voilà, notez qu'il vous faudra à peu près 15 minutes de préparation et 45 minutes de cuisson. Donc, vous pourrez lire un bon livre en attendant que tout soit prêt. Voilà, allez, c'est parti pour cette délicieuse recette. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une casserole et vous allez verser le 1 litre de lait et 1 litre d'eau. Et vous allez faire chauffer. Et quand le mélange frémit, vous allez plonger vos filets de haddock. Alors, si vous les avez en grand filet, ce qui est rare, hein, en général, ils sont en filet, mais ça fait 10-10. Si vous les avez en filet, vous pouvez très bien les rouler, les ficeler et les plonger comme ça.
D'accord.
Comme ça, ça vous fait ça prendra la forme du roulé. Y a aussi la technique de mettre dans du film plastique, du film étirable, mais il faut qu'il tienne à la cuisson.
Ouais.
Donc attention à ça. Enfin, le coup de la petite ficelle, ça peut être sympa. Donc vous allez donc plonger vos filets de haddock pendant 10 minutes. Puis donc au bout de 10 minutes, les haddocks sont cuits. Vous les égouttez, vous les réservez dans un plat. Ensuite, vous allez éplucher les endives. Alors, vous allez les éplucher, donc on enlève les parties un petit peu brunes si elles sont abîmées. Vous allez les rincer, bien évidemment. Et vous allez creuser la base en forme en petit cône. Hein, donc, moi j'appelle ça le trognon. Et c'est cette partie-là qui est très amère. Ouais. Alors, si vous n'y arrivez pas, eh ben, moi, je vous les coupez en deux et puis vous faites un triangle, c'est aussi bien. Puisque de toute manière, après, on va les couper en deux. Et puis, dans une poêle, vous allez faire fondre 20 grammes de beurre et vous allez y ajouter vos endives fendues dans le sens de la longueur. Donc, si auparavant, vous les avez coupées parce que vous n'arrivez pas à enlever le trognon, eh ben, vous les coupez déjà et c'est pas bien grave. Peu importe dans le sens que vous faites, l'important c'est on les met dans le beurre qui a fondu. Attention, le beurre ça cuit très très vite. Donc vous pouvez aussi mélanger beurre et huile, ça évite que ça brûle trop vite.
D'accord. Voilà.
Et vous aurez un aussi bon résultat. Hein. Bon, moi le beurre c'est... Moi, il y a des fois, je cuisine au beurre, puis il y a des fois, je cuisine à l'huile d'olive. Et puis, vous allez cuire donc nos endives pendant 5 minutes de chaque côté. Et surtout, vous salez et vous poivrez. Voilà. Ensuite, pendant que ça frémit, pendant ces 5 minutes-là, bah, vous avez le temps de presser les oranges. Vous pressez les oranges et vous versez le jus sur les endives. Donc les endives, elles sont un petit peu acides et là on va avoir le petit sucré de l'orange et puis vous allez le couvrir vous allez couvrir la poêle et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes en les retournant de temps en temps. Donc on les saisit 5 minutes et après, on verse le jus d'orange par-dessus et on laisse à feu doux cuire pendant 30 minutes.
Ça va réduire le jus d'orange un petit peu ?
Ah bah oui. Et puis, ça va un petit peu caraméliser.
Ça.
Donc, on va les confire, en fin de compte. Hein. Mm-hmm. C'est braisé, confit. Enfin, voilà. Ça va donner vraiment ce... Alors, si vous avez des oranges amères... Ce qui n'est plus la saison, donc c'est triste parce qu'on n'aura pas salé sucré. Si vous avez des oranges de table, c'est aussi bien. Hein. Vous faites-le avec des oranges sanguines, là ça va être la saison des oranges sanguines. Faites-le, plus vous allez jouer avec ces agrumes et meilleur ce sera. Mmh. Voilà. Donc si jamais en fin de cuisson, vous voyez qu'il manque un peu d'eau, vous en rajoutez, mais vraiment un fond de verre. C'est l'histoire que ça ne brûle pas et que ça ne caramélise pas de trop. Ensuite, donc là ça cuit tranquillement pendant 30 minutes. Dans une autre casserole, vous allez faire fondre le reste du beurre, à savoir les autres 20 grammes. Vous allez râper le zeste du citron et vous allez presser un demi-citron. Et vous allez les rajouter au beurre fondu. Donc on va avoir un beurre fondu citronné. Vous allez y rajouter la cuillère de crème fraîche, deux cuillères de crème fraîche pour obtenir une sauce un peu lisse et homogène. Vous poivrez bien sûr et vous salez selon votre goût et vous réservez au chaud. Ça, c'est la petite sauce qui va bien avec. Donc on va avoir un mélange de orange, citron, amer par l'endive, mais pas trop. Et quand tout est cuit, ben vous servez le haddock qui a été poché dans le lait, accompagné des endives joliment présentées. Ça peut être en forme de fleurs, de soleil. Les endives, c'est très, très, très ensoleillé, on va dire. Dans un beau plat ou à même l'assiette, vous nappez de la sauce, vous rajoutez par-dessus une petite feuille de coriandre ciselée. Et puis, ben voilà, votre plat, il est fait. Voilà, il n'y a rien de plus facile. C'est un plat qui est facile à réaliser, qui est équilibré et qui est en plus délicieux. Voilà, maintenant, alors, Nathalie, tu nous as parlé tout à l'heure de la sauge.
Ouais.
Qu'on ne connaît pas beaucoup. Et on a du mal à savoir la coriandre, ce que c'est.
Alors, il y a la coriandre cultivée, qui est le coriandrum sativum. C'est une espèce de plante herbacée annuelle de la famille des apiacées. C'est une plante aromatique cultivée dans les zones tempérées du monde entier et employée pour de nombreuses préparations culinaires, particulièrement en Asie, en Amérique latine et dans les cuisines méditerranéennes. Les feuilles sont généralement utilisées fraîches en accompagnement ou comme condiment. Les fruits séchés, souvent confondus avec des graines, sont utilisés comme épices. Moulus, ils sont un ingrédient de base de nombreux mélanges tels que les currys. La coriandre est également une plante médicinale aussi, reconnue notamment pour faciliter la digestion. On en tire une huile essentielle utilisée en aromathérapie dans l'industrie alimentaire pour son arôme et comme agent de senteur en parfumerie, dans les cosmétiques ou les produits sanitaires. La coriandre longue ou coriandre chinoise ou coriandre bolivienne, je vous dis pas les noms latins, hein. Il y a la coriandre vietnamienne, sont des appellations vernaculaires désignant d'autres espèces végétales également utilisées en cuisine. La coriandre semble avoir été cultivée dans la Grèce antique au moins depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Des tablettes en linéaire B provenant de la civilisation mycénienne mentionnent la coriandre en quantité importante comme offrande rituelle ou comme matière première pour la confection d'onguents et de produits aromatiques à l'usage des temples palais. Une des tablettes retrouvées à Philos fait référence à la coriandre comme étant cultivée pour la fabrication de parfums et elle aurait été utilisée sous deux formes, comme épice pour ses graines et pour la saveur de ses feuilles. Une grande quantité de coriandre retrouvée dans une couche de l'âge du bronze ancien à Sitagri en Macédoine renforce l'hypothèse de la culture de la plante à cette période, donc plus de 1200 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux l'utilisaient pour aromatiser leurs galettes et les Romains, eux, pour conserver leur viande au frais. En France, des fouilles archéologiques ont mis en évidence la présence de la coriandre depuis l'Antiquité, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle. Elle fait partie des plantes dont la culture est recommandée dans les domaines royaux par Charlemagne, dans le capitulaire du Vilis, à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle.
Merci Nathalie pour ça, parce que on parle de la sauge et de la coriandre, on retrouve le capillaire de Vinis, pareil.
Oui.
Donc c'est à peu près la même époque. Moi je comprends maintenant pourquoi les Grecs, il y a beaucoup de choses qui sont à base de coriandre, parce que les Grecs s'en servaient énormément, ouais. Et ça vient probablement de chez eux. Ben écoutez, moi je vous propose une pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de notre menu de ce soir.
But you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next, I have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. Always doing the most, out of touch and not even close.
drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you, you see a pattern, your point of view. Got it all backwards. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. It's not me, it's you. It's not me. Look at your reflection, baby, maybe you're the problem.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Je ne sais plus parce que Théo fait le clown dans le studio. Voilà, ça y est, je vais reprendre mes esprits dans 2 secondes. Alors, on était, avant la pause, on était en train de voir et de vous dire qu'on allait faire un dessert et c'était la tarte façon crème brûlée. Alors, Nathalie, une petite histoire courte pour cette tarte, hein, sur la tarte.
Bah, une tarte. À part la claque, une tarte, c'est pour plusieurs convives. Et sinon, il y a la tartelette qui est pour une seule personne. C'est une spécialité culinaire constituée d'une pâte servant de support à une garniture qui peut être sucrée ou même salée. Le substantif féminin tartelette est comme tartine, un diminutif de tarte. Voilà, on a découvert quelque chose. La tarte, c'est une des pâtisseries les plus anciennes. Les pâtissiers commencèrent par faire des tartes salées, puis sucré, et depuis le Moyen-Âge, la tarte a connu beaucoup de recettes diverses et variées.
Et je dirais que la plus connue, c'est la tarte tatin, dont on a parlé déjà il y a un petit moment.
Oui.
Voilà, mais après, on a plein de déclinaisons. La preuve, c'est que ce soir, ben, on voit cette fameuse tarte façon crème brûlée. Vous allez voir, c'est en fin de compte 2 desserts en un. C'est délicieux, c'est super bon. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre mou, 190 g de sucre, un œuf, 15 centilitres de lait, 5 jaunes d'œufs. Vous gardez bien vos blancs parce qu'on va faire quelque chose après. 200 g de farine, 20 g de cacao, 33 centilitres de crème liquide entière, un bâton de cannelle, 2 gousses de cardamone. Ça, c'est encore une épice qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est vraiment très très bonne. Donc 2 gousses, ça suffit amplement, même si vous en mettez qu'une. Si vous ne connaissez pas le goût, c'est mieux une. 2 rondelles de gingembre frais. Et pour les ustensiles, vous aurez besoin de 2 saladiers, d'un fouet, d'une cuillère en bois, d'une casserole, d'un rouleau, de 2 moules et d'un batteur foué. Sans oublier du papier film et du papier cuisson et un chinois. Comptez 20 minutes de préparation et 30 minutes de repos et 50 minutes de cuisson. Donc ça a une longue cuisson et 30 minutes, bah, c'est la pâte en fin de compte. Alors si vous voulez la faire vous-même, je vais vous donner la recette. Sinon, vous pouvez acheter une pâte sablée, ça marche tout aussi bien. Sauf que dans cette pâte, on a rajouté un ustensile et qui est le cacao. Donc pour préparer la pâte, vous allez déjà mélanger le beurre donc avec 60 g de sucre. Vous y ajoutez un œuf, la farine, farine, le cacao, vous pétrissez rapidement pour former une boule, vous allez voir, ça va très très vite, vous la laissez dans le saladier, vous filmez, et après, vous réservez pendant 30 minutes. Donc là, c'est une petite sieste de 30 minutes, c'est pas comme les gaufres où c'est 2 heures, là c'est 30 minutes. Pendant ce temps-là, bah, dans une autre casserole...
On la réserve au frigo. Hein.
Oui. Ah, excuse-moi, j'étais lancée tellement dans mon truc. Donc, on la réserve au frigo. L'idée, c'est que, en fin de compte, le beurre et le sucre, le beurre refroidissent et que vous ayez plus de facilité à l'étaler. Si jamais vous n'avez pas ces 30 minutes, je vous donne une petite astuce, vous mettez 15 minutes au congélateur.
D'accord.
Voilà. Donc, mais pas plus.
Oui,
même
parce
10
qu'après,
minutes, parce qu'après c'est congelé c'est moins facile à étaler. Donc pendant que ces 30 minutes se passent, on va avoir largement le temps de faire notre appareil. Pour cela, on va prendre une casserole, on va verser le lait, la crème, ajouter un bâton de cannelle, la cardamone. Alors j'explique, la cardamone, c'est une petite coquille, tu vas expliquer tout à l'heure ce que c'est. Faut casser cette petite coquille parce que j'ai expliqué ça à une de mes amies et elle m'a dit ouais ça craque un peu et on n'a pas senti le parfum de la cardamone
parce qu'elle
n'a pas claqué la coquille. Donc vous claquez la coquille, vous avez des petites graines à l'intérieur, à la limite vous les pilez dans un pilon et vous la rajoutez au lait et à la crème. Vous mettez le gingembre frais, donc deux petites rondelles, suffit. Vous portez à un frémissement. Une fois que vous avez, vous voyez que ça commence un petit peu à buller, vous éteignez et vous couvrez. On va laisser infuser tranquillement. On a la pâte. Après 30 minutes, on la sort du frigo et à l'aide du rouleau, on va l'abaisser sur... moi, j'aime bien le mettre directement sur le papier cuisson. Comme ça, je prends ma feuille de papier cuisson et je la mets directement dans mon moule. J'ai pas à la retourner et ça colle pas sur mon plan de travail. L'important, c'est de piquer bien votre pâte et à l'aide d'une fourchette, tout simplement. Et vous allez recouvrir cette pâte, une fois qu'elle est dans le moule, d'une autre feuille de papier et déposer le deuxième moule qui sera plus petit. Donc, ça s'appelle la cuisson à blanc.
Oui.
Donc, on va faire sans rien à l'intérieur. Alors, vous avez aussi des billes de porcelaine que vous pouvez mettre dedans, machin.
Il y en a qui font avec des haricots, je crois.
Oui, des haricots. Après,
faut que ce soit assez lourd, en fait, pour pas que la pâte gonfle.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, l'important, c'est qu'on ait une pâte pas trop cuite, qui soit mi-cuite, attention. C'est pour ça qu'on va la cuire à 180 degrés, thermostat 6-7, pendant 15 minutes. Et après, on finira la cuire avec l'appareil qu'on aura fait dedans. En fin de cuisson, vous sortez le moule qui est par-dessus, que vous aviez mis par-dessus. Vous enlevez le papier de cuisson et vous renfournez 5 minutes de façon qu'elle soit un petit peu colorée, mais pas trop puisqu'elle va recuire après derrière. Donc c'est juste qu'elle finisse de sécher. C'est en fin de compte une question de séchage pour que ça soit un peu croquant. Et puis à l'aide du chinois, on va filtrer le mélange lait, crème et épices. Donc ça c'est important puisque tout ce qu'on a mis à l'intérieur, la cardamone, la cannelle et le gingembre, on n'en a plus besoin. Donc vous pouvez le jeter. Vous pouvez aussi... Alors moi j'aime bien me servir jusqu'au bout. Je vais le mélanger avec des fruits et je vais en faire une confiture. Voilà, c'est ceci en
D'accord.
passant, comme ça, il y aura un petit mélange de... Parce que le parfum, il restera. La cannelle, ça dure, la cardamone, ça dure. Et puis, le gingembre donnera un petit coup épicé dedans. Et donc je ne sais plus où... Si, ça y est. Donc, vous passez au chinois, donc vous filtrez votre lait, votre crème, et puis dans un saladier avec votre batteur foué, vous allez blanchir vos jaunes d'œufs et vos 30 euh, grammes de sucre. Vous allez y incorporer le mélange qu'on a filtré tout à l'heure, donc lait, crème et épices. Et puis, vous allez voir, ça va faire un petit peu épais. Et ben, vous allez donc verser cette préparation-là dans la pâte qui est pré-cuite. Et vous allez enfourner à nouveau dans un four, par contre, à 150 degrés, thermostat 5, pendant 30 minutes. Une fois la sortie du four, vous allez bien laisser refroidir. Et dans une casserole, vous allez faire chauffer à feu vif 100 g de sucre, une cuillère à soupe d'eau, et vous allez obtenir un caramel blond. Quand votre caramel est prêt de la couleur que vous souhaitez, il ne faut pas que ça soit trop marron parce que sinon ça va être amer, le versez doucement sur votre tarte. Vous laissez, alors pas épais, hein, c'est vraiment l'histoire de faire le caramel. Vous laissez durcir, ça prend 2 secondes puisque votre plat est froid, et vous servez aussitôt. Et c'est un dessert qui est c'est un délice. Le croquant du caramel avec la douceur de la crème aux épices, c'est un vrai bonheur. Voilà. Nathalie, tout à l'heure j'ai parlé de la cardamone. J'aimerais que tu dises exactement ce que c'est.
Alors, le ou la cardamome, c'est une plante herbacée vivace à rhizome appartenant à la famille des Angibiracées.
À vos souhaits.
C'est originaire d'Asie du Sud-Est. Le fruit séché qui se présente sous la forme d'une capsule vert ou gris, comme l'épice du même nom, la cardamome, bien que celle-ci puisse également être issue d'autres plantes. La cardamome, parfois appelée cardamomier, est une plante herbacée vivace aux feuilles piquantes. La racine est un gros rhizome superficiel se développant horizontalement, peu lignifié, qui émet chaque année une trentaine de tiges disposées en touffes. Ces tiges, dont la couleur varie du vert clair au violet, peuvent atteindre 15 cm de diamètre à leur base, pour une hauteur maximale qui peut varier selon les variétés entre 2 et plus de 4 mètres. Les feuilles poussent au nœud des tiges, de couleur généralement vert sombre, mais pouvant varier du vert clair à la pourpre. Leur limbe, long de 50 cm environ, pour une largeur n'excédant pas les 3 à 5 cm, présente une forme très lancéolée. Le pétiole est engainant. À côté des tiges, le rhizome émet des hampes florales, des panicules lâches qui porteront les fleurs blanches striées de violet de la cardamome, et au plus tard ses fruits. Alors, le nombre moyen de panicules par plante varie entre 10 et 30 pour un plant âgé de 3 à 5 ans. Leur longueur moyenne varie de 50 à 75 cm, chacun portant généralement entre 10 et 15 nœuds. Ces panicules poussent généralement à plat, mais peuvent parfois être partiellement dressés, voire verticaux. Le fruit, c'est une capsule jaune-vert à trois côtés, longue de 1 à 2 cm et contenant de 15 à 20 graines, qui sont noires et brunes. Les graines sont utilisées donc comme condiment. La cardamome est connue et utilisée en Inde depuis des temps très reculés. Les plus anciennes mentions sous son nom sanskrit datent de la période védique, entre le... Oula, je ne sais pas combien de siècles avant Jésus-Christ. Oui, 20e siècle avant Jésus-Christ. Elle est exportée probablement par la route, puisqu'elle est connue et utilisée par les médecins en Assyrie et même cultivée dans les jardins du roi de Babylone. Toutefois, elle semble ignorée des Égyptiens. La cardamome est d'abord connue en Europe grâce aux marchands arabes qui l'exportent vers la Grèce et la Rome antique, puis médiévale, d'où elle se répand comme dans les autres pays du bassin méditerranéen, puis d'Europe de l'Ouest. Les Grecs et Romains l'utilisent comme ingrédient de parfum et c'est une des épices orientales les plus utilisées dans la cuisine romaine. Elle est également considérée comme plante médicinale, mentionnée notamment par Dioscoride. Les vertus digestives qui lui sont prêtées expliquant probablement que de grandes quantités en soient importées d'Inde. Il n'est cependant pas certain que la cardamome mentionnée dans les écrits de l'Antiquité et du Moyen-Âge soit la plante connue aujourd'hui sous ce nom. Quoi vous dire de plus ? J'ai tout dit, je crois, sur un cardamome. Bah, voilà.
C'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien. Moi, j'avais envie de vous donner un petit bonus avec les cinq blancs d'œufs qu'on a fait tout à l'heure avec les cinq jaunes. On a fait la crème.
Il faut utiliser les blancs.
Ben voilà. Alors, plutôt que de les mettre au congélateur tout le temps. Là, je vous donne la recette enfin. C'est les meringues. Alors, dans un saladier, vous allez mettre vos cinq blanc d'œuf, vous allez les monter en ferme, alors vous pouvez mettre une pincée de sel hein, si vous souhaitez, c'est pas obligatoire, et vous allez les mélanger avec 75 g de sucre semoule. Donc vous mélangez bien ferme. Il faut environ à peu près, avec un batteur foué, à peu près 4 minutes. Il faut vraiment que ça monte et que ça triple ou quadruple de volume. Mmh. Voilà. Donc attention aux éclaboussures, hein, c'est toujours pareil. Et puis, vous battez et vous allez rajouter à peu près 75 g. Supplémentaire de sucre semoule, toujours. C'est très, très sucré. Alors, vos 5 œufs, c'est simple, c'est 5 blancs. Ça fait à peu près 150 grammes. D'accord ? C'est ça la recette. Ça fait 150 grammes. Il faut que vous rajoutiez 150 grammes de sucre semoule et 150 grammes de sucre glace.
Ah.
Et là, on a une meringue. Et la meringue n'est faite que de sucre. Voilà. Donc, j'en étais donc à mes. Donc, on a fait les premiers 75 grammes de sucre semoule. On les a bien battus pendant 4 minutes. On rajoute progressivement nos autres 75 grammes de sucre semoule toujours. On rebat 4 minutes vraiment. Donc, progressivement, hein, c'est faut y aller doucement pour pas que ça redescende non plus. Et puis, progressivement, quand vous avez fini vos 4 minutes, vous allez à la cuillère, moi je fais ça à la cuillère à soupe, je rajoute mes 150 grammes de sucre glace. Ça, c'est important de faire le sucre glace parce que comme c'est en poudre très fine, vous pouvez aussi le tamiser, mais ça sert, enfin moi perso, ça sert à rien. Et puis, vous avez donc vraiment, vous continuez à battre pendant à peu près 33 minutes. Et là, vous avez des meringues qui se tiennent. C'est-à-dire que quand vous allez soulever le fouet, il faut que ça fasse un petit bec. Voilà. Et là, on a des meringues. Une fois que vous avez fait ça, vous avez plusieurs solutions. Recouverte d'un papier cuisson, vous prenez deux cuillères à soupe, vous en prenez une et donc vous prenez une cuillère de meringue. Cuillère à soupe, donc ça vous fait des belles meringues. Et avec l'autre, vous la poussez sur la plaque. Donc, ça vous fait un petit rocher, on va dire. Alors, pour les plus doués, ou si vous avez, vous prenez une poche, c'est aussi bien. Et les meringues se cuisent donc dans un four à 100 degrés pendant 1 à 2 heures, suivant votre four. Moi, perso, je fais 1 heure à 100 degrés et je mets une cuillère en bois dans la porte pour l'entrebâiller. Voilà, ça, c'est ma technique parce que j'ai un four à gaz. Je suis encore à l'ancienne, je n'ai pas un four électrique. Voilà. Et les meringues, vous les servez avec plein de choses, même au goûter, ça peut être sympa. On parlait d'un produit énergétique, ça c'est énergétique, ça vous redonne un coup de fouet. Faut pas en abuser non plus, attention au diabète. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Avec un bonus. Vous pouvez retrouver nos podcasts avec toutes nos recettes. Je l'ai bien dit, hein, Nathalie.
Tout à fait. Ouais.
Et voilà. Encore une fois, partagez nos recettes. Faites et refaire en famille, en amis. C'est la convivialité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le mardi 19h30, avec des nouvelles recettes, tout aussi délicieuses et facile à réaliser. Il nous reste à vous souhaiter un bon appétit, une excellente soirée. Et puis, bah, surtout, vous prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine.
Bonsoir. Bonne soirée.